vous suit.
Voici les titres du journal.
Un pédibus intergénérationnel pourrait voir le jour à Montais. Sous l'égide de Pédibus Valais, il permettrait aux petits montaisans d'être accompagnés sur le chemin de l'école par des résidents de l'EMS Tertianum La Venise. L'État du Valais a fait un premier bilan des dégâts dus aux inondations cet été. Il va soutenir les entreprises et les particuliers lésés seront soutenus à certaines conditions. Des explications dans ce journal. On continue notre série « Un jour, une commune » dans le cadre des élections communales valaisannes 2024. Place au chef-lieu chablaisien, Montais. Et enfin, un déficit de 133 000 francs, c'est la dette du BBC Montais-Chablais après la saison 2023-2024. Une situation pas catastrophique mais délicate, selon son président.
Pour la météo, un temps maussade pour aujourd'hui avant le retour du soleil demain. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Anthony Dacampo. Bonjour Anthony.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Un projet de pédibus intergénérationnel est en cours d'élaboration à Montais. L'objectif, permettre aux enfants d'être accompagnés une fois par semaine par des résidents de l'EMS Tertianum La Venise. Un moment de rencontre qui bénéficierait aux enfants, mais également aux personnes âgées, selon la responsable des animations Tertianum La Venise, Sylviane Rossier.
Je trouve très important ces échanges que la personne âgée, pour baisser l'isolement aussi, et puis de, ça peut éventuellement faire ressurgir des souvenirs avec leurs petits-enfants ou voilà, les contacts avec les enfants qu'ils pouvaient avoir. Donc je trouve vraiment très important.
Même son de cloche du côté de l'initiatrice du projet, Laetitia Moulin-d'Arbelay, coordinatrice Pédibus Valais à l'association Transport et Environnement.
Alors moi je trouve que ce côté échange est important, soit d'un côté, soit de l'autre. Les enfants, ça leur apporte aussi d'autres discussions, d'autres partages. Les personnes âgées, ce rapport avec les enfants, en fait tout au long de l'année, ils leur racontent leurs vacances, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis voilà, ce lien qu'ils arrivent à connecter entre eux, ça leur redonne un côté récréatif.
Ce projet est encore au stade de la recherche de famille. Celles intéressées par cette idée peuvent se renseigner sur la page Facebook du Pédibus, un sujet réalisé par Léa Journeau.
Après les intempéries de cet été, le canton du Valais va engager tous les moyens nécessaires pour rétablir la situation.
Les premières estimations chiffrent les dégâts dus aux inondations à 125 millions de francs pour l'État du Valais. Les coûts concernent les cours d'eau latéraux et le Rhône, le réseau routier, les dommages aux infrastructures agricoles et aux forêts. Pour assurer une équité de traitement envers les particuliers, une bonne coordination entre les organisations d'entraide, les communes et le canton est nécessaire. Mais le dédommagement vient en premier lieu des assurances privées. Frédéric Favre, chef du département de la sécurité, des institutions et du sport.
Effectivement, alors on a une responsabilité toujours individuelle pour les privés de s'assurer. On a eu une solidarité incroyable en Suisse. Merci à tous les donateurs, c'est environ 12 millions qui ont été débloqués en Suisse pour aider les gens victimes d'intempéries. Et nous avons des fonds au niveau national ou cantonal qui peuvent bien intervenir. Et le Conseil d'État s'est engagé, si à la fin on avait vraiment des situations où les gens étaient passés à travers toutes les mailles de ce filet, eh bien de les analyser et au besoin, eh bien de prendre des décisions d'exception, comme on a fait par exemple pendant le Covid.
Ce sera au cas par cas.
Ce sera au cas par cas. Il est important de voir d'abord tout ce qui peut être fait. La responsabilité individuelle prime. Ensuite, on a des soutiens en place qui existent. On a des soutiens exceptionnels comme les dons qui sont arrivés. Et tout ça, normalement, de notre expérience, tout le monde s'en sort. Et s'il y aurait des exceptions, on les analysera.
Concernant les entreprises d'importance systémique, notamment celles de Constellium et Novelis Acier, un projet de décret sera soumis au Parlement. Le but, permettre au canton de les soutenir avec des mesures exceptionnelles sous la forme de cautionnement. Reste une question, seront-elles aussi dédommagées pour leurs pertes économiques? La réponse de Christophe Darbelay, chef du département de l'économie et de la formation.
Alors pour la perte économique, il n'y a pas de dédommagement. Il y a des dédommagements au niveau des assurances, évidemment, pour toutes les pertes matérielles et les dégâts qui ont été occasionnés. Par contre, il n'y a pas de circonstances, je dirais, qui font que l'État va verser quelque chose pour la perte économique. Là, on n'entre pas en matière en dehors d'une procédure juridique, mais pour l'instant, qui n'est pas envisagée par les entreprises en question.
Il n'y a pas trop de problèmes actuellement avec elle.
Bon, il y a des discussions qui peuvent être assez serrées. Je crois qu'on est dans une phase de crise, que tout le monde recherche des solutions. Maintenant, il faut essayer de garder au maximum le cap et au maximum son calme.
Le Conseil d'État est toujours en discussion avec ses entreprises. Une rencontre a eu lieu hier avec Novelis.
À l'approche des élections communales valaisannes du 13 octobre, Radio Chablais poursuit la série « Un jour, une commune ».
Après avoir longé le lit de la Viesse dans la vallée, en passant par les communes de Champéry, Val-d'Illier et Trois-Torrents, retour en plaine, à Montais. le chef-lieu chablaisien, qui compte 18 000 habitants, sort d'un cycle d'investissement qui a vu la concrétisation de plusieurs grands projets, comme la sécurisation des digues de la Vièze, la réalisation du pôle culturel Casanova ou encore les travaux au centre-ville. Mais les futurs édiles auront encore de quoi retrousser leurs manches. Tour d'horizon des enjeux qui attendent la municipalité de Monthey au lendemain des scrutins de cet automne avec Guillaume Abbé.
À Monthey, outre les enjeux de politique pure, on va y revenir succinctement, la future municipalité devra s'entendre sur divers dossiers. Pêle-mêle, nous pouvons citer la dynamisation du centre-ville, la place de la voiture au cœur de la cité et la mobilité au sens large, un enjeu au long terme qui sera à surveiller à travers des dossiers comme le terminal rail-route, la nouvelle gare ou la refonte de l'axe routier Monthey-Colombey. Des chantiers en cours ou à venir dans le chef-lieu qui nécessiteront une surveillance accrue des finances. Pour le scrutin à venir, 25 postulants répartis en 5 listes tenteront de ravir un des 9 sièges. Actuellement, les libéraux radicaux en ont 3, 2 pour le centre et le parti socialiste et un pour l'entente et l'UDC. En juin 2023, le PLR a annoncé la couleur. Très tôt, le parti a affirmé ses vues sur la présidence et sa volonté de faire élire ses 3 sortants. Pour le Parti Socialiste et Gauche Citoyenne, sur les 2 élus, seule Ferdita Bogi qui se représente, le PS veut le statu quo. Objectif similaire au centre, qui ne présente aucun sortant. Et comme il y a 4 ans, les Verts présentent 2 candidats et espèrent un siège. La 5e et dernière liste se nomme Monthey Demain. Elle présente autant de candidats qu'il y a de place à repourvoir. Apolitique, elle présente tout de même un municipal UDC sortant et 2 membres du Conseil Général, un UDC et un indépendant. Le fait marquant de ce scrutin est le nombre de sortants qui ne se représentent pas. 4 sur 9, dont Stéphane Copé du centre après 12 ans de présidence. Il y aura donc au minimum 4 nouveaux municipaux qui siégeront autour de la table de l'exécutif montaisan.
Demain, nous découvrirons les enjeux et les défis qui attendent la municipalité de Massonger. Les avis restent divisés en ce qui concerne l'exportation d'armes. Le camp bourgeois veut donner une plus grande marge de manœuvre au Conseil fédéral. La gauche et les Verts se montrent critiques dans la consultation de la loi sur le matériel de guerre. Le Conseil fédéral veut une modification de la loi qui lui permette de s'écarter des critères d'autorisation lorsque des intérêts de politique extérieure ou de sécurité l'exigent.
L'accord de libre-échange avec l'Inde est prêt à passer devant le Parlement.
Le Conseil fédéral a adopté hier son message à l'intention des chambres fédérales. L'accord est conclu entre l'Inde et les États de l'AELE, à savoir la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Il devrait permettre aux entreprises suisses d'augmenter sensiblement leurs exportations vers ce pays. Les précisions du conseiller fédéral en charge de l'économie, Guy Parmelin, qui s'exprimait ce matin en conférence de presse.
Dès l'entrée en vigueur de cet accord, nous bénéficierons d'un avantage concurrentiel, notamment par rapport à l'Union européenne et au Royaume-Uni qui n'ont pas encore aujourd'hui conclu leurs négociations avec l'Inde. 94,7% du commerce actuel de marchandises de la Suisse vers l'Inde vont bénéficier d'un allègement des droits de douane à l'entrée en vigueur de l'accord. Je vous donne quelques exemples. L'accès au marché pour tous les produits pharmaceutiques est amélioré. Sur la plupart des machines, les droits de douane sont supprimés. Les droits de douane sur les produits chimiques sont supprimés ou réduits. L'Inde accorde la franchise douanière aux montres suisses. L'accès pour les produits agricoles transformés, ici on pense par exemple au chocolat, aux capsules de café, à certaines préparations alimentaires, est amélioré.
Cet accord de libre-échange est particulièrement innovant. Il prévoit que les États de l'AELE s'engagent à promouvoir les investissements en Inde. Elle consacre un chapitre entier et juridiquement contraignant aux questions de durabilité.
Le nombre d'animaux de compagnie est en hausse.
La PSA, la protection suisse des animaux, en a récupéré plus de 31 000 en 2023. Les poissons représentent plus de la moitié de ces animaux placés. Une attitude préoccupante selon la PSA. La décision d'acquérir un animal devrait toujours être bien réfléchie et préparée. L'organisation peine à expliquer cette augmentation. Un déficit de 133 000 francs, c'est la dette du BBC Monthey-Chablais après sa saison 2023-2024. Cela a été annoncé hier soir lors de l'Assemblée Générale du club. De nombreux éléments peuvent l'expliquer. La dette préexistante, évidemment, mais également divers frais qui avaient été sous-estimés, tels que ceux d'arbitrage. Reste que la situation est délicate du côté des sangliers, qui ont tout de même obtenu leur licence pour la saison prochaine. Mais pas de quoi craindre une faillite, selon le président Claude Potier.
Alors je dirais pas le spectre de la faillite parce qu'on est beaucoup, on est vraiment très loin des presque 850 000 francs que le club avait connu à l'époque. Par contre, c'est une situation, comme j'ai dit, qui est délicate, qu'on doit prendre vraiment de manière sérieuse. On va discuter la semaine prochaine avec le comité. On s'est réunis hier soir, on va se réunir la semaine prochaine pour discuter éventuellement de mesures concrètes à prendre. Quand Laurent Duchoux a repris le club, on était à moins de 120 000 francs. Aujourd'hui, il reste une dette de l'ordre de 130 000. Donc, si on veut regarder les choses de manière positive et optimiste, on dit qu'on a quand même réduit la dette. Mais cette dette, l'objectif, ce n'est pas de la réduire, c'est de la faire disparaître.
Cette situation qui touche le BBC Montéchablais n'est pas une exception. De nombreux clubs de SB League sont touchés par des problèmes financiers, à commencer par le Vevey Riviera Basket, qui ne sait toujours pas s'il pourra jouer la saison qui s'annonce. Même Fribourg Olympique est à découvert. Le basket suisse est malade, selon Claude Potier.
C'est vrai que le basket suisse est malade. Vous avez vu les comptes tout à l'heure. En tant que club de Ligue Nationale A, on paye un montant de l'ordre de 100 000 francs à Swiss Basket. Et on pourrait s'imaginer que la Fédération Suisse de Basket, qui trouve des sponsors, trouve des moyens, se batte aussi pour que les matchs de basket soient retransmis à la télévision, parce que ça a aussi un impact sur les sponsors, la visibilité. Eh bien, si on s'imaginait qu'à la place que nous, on verse 100 000 francs, ce soit eux qui nous versent 100 000 francs, on aura un écart de 200 000. Et puis, ça permettra au club de BBC. C'est monté aux autres clubs romands et suisses de vivre, je dirais pas dans le luxe, mais convenablement.
Le BBC Montéchablais débutera sa saison le 28 septembre à domicile face à Union Neuchâtel. Un sujet de Thierry Nicolet.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.